faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces instants. Merci pour ce temps que tu nous donnes en ta présence, pour ce moment de communion avec toi. Merci parce que nous sommes privilégiés, Seigneur Dieu, d'entendre ces choses. Puisses-tu nous donner de les comprendre. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Je t'en supplie, Esprit de l'Éternel, saisis-toi de moi. Tu vois mes limitations, les manquements, Saint-Esprit, où je n'ai pas pu peut-être faire comme je devais le faire, chaque chose. Mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Saint-Esprit, je compte sur toi, je m'appuie sur toi. Car je sais que la parole vient de toi, Esprit de l'Éternel. Donne-la à ma bouche et donne-moi de parler selon toi. Dispose les cœurs de tes serviteurs et de tes servantes ici. Afin que ce moment soit béni de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Amen.
Amen. Nous sommes venus apprendre à travailler. Dis un voisin, le travail. Le travail. Voilà, depuis quelques mercredis, nous abordons un thème très intéressant. Sur le travail efficace, travailler selon Dieu. Amen. Je vais vous inviter à lire un de nos textes de base de cet enseignement. Un de nos textes de base. Jean le chapitre 6, le verset 27. Jean le chapitre 6, verset 27. Il est dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Alors nous avons fait la remarque que dans ce passage-ci, le Seigneur parle de deux façons de travailler. Amen. Il dit qu'il y a une façon de travailler qui vous donne une nourriture périssable. Il y a une autre manière de travailler qui vous donne une nourriture éternelle, qui vous donne un salaire éternel. Je reprends, il y a deux manières de travailler. Il y a une façon de travailler qui vous donne un salaire périssable et une autre manière de travailler qui vous donne un salaire de gloire, un salaire éternel. Alléluia. Et je vous ai dit la dernière fois que le travail qui donne la nourriture éphémère, c'est le travail qui vous donne un salaire matériel. Et ce salaire-là, sous forme d'argent ou sous forme d'une récompense quelconque, mais matérielle, est une chose périssable. L'argent va vous servir à payer votre loyer, à répondre à certaines charges. Cette forme de travail n'est pas la bonne façon de travailler pour les enfants de Dieu. Et beaucoup de croyants, ne connaissant pas ce message, travaillent avec cet esprit. Ils vont au boulot, ils mènent des activités professionnelles afin de s'attendre juste un salaire, le salaire à la fin du mois. Tandis que Dieu aussi a un salaire. Alléluia. Le salaire de Dieu, non seulement matériellement, il pourvoit à vos besoins, mais le salaire divin a une incidence sur la paix dans votre maison, la joie que votre employeur ne peut pas vous donner. Alléluia. Alléluia, qu'il ne peut pas vous donner. Et la joie est une chose qui commence maintenant et qui va jusque dans la vie éternelle. Amen. Le salaire de Dieu, parce que la Bible dit, on va le voir en Hébreux chapitre 11 verset 6, Dieu dit ceci, il faut que celui qui s'approche de Dieu ou qui fait l'œuvre de Dieu sache que Dieu est le payeur ou le rémunérateur de ceux qui le cherchent ou qui travaillent pour lui, de ceux qui font sa volonté. Dieu est le payeur. Donc Dieu paye aussi. Dis un voisin, Dieu paye aussi. Alléluia. Et Dieu a un salaire qui est différent. Donc Jean chapitre 6 verset 27 nous présente déjà deux manières. Il dit ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que nous travaillions pour la nourriture qui périt? Juste pour le petit salaire de la fin du mois. Même si ton salaire est gros, est grand, même si tu as
30 fois le SMIC. On va dire gloire à Dieu. Mais nous connaissons beaucoup de personnes qui avaient des salaires faramineux, mais qui avaient des difficultés, divisions familiales, plein de problèmes. C'est-à-dire, ils avaient l'argent, mais tout ce que l'argent pouvait leur apporter, ils l'ont perdu. Ils n'ont pas eu la paix, ils n'avaient pas de joie, famille divisée, enfants livrés à eux-mêmes, et leur argent n'a pas su garder leur maison. La Bible dit ceci: à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Vous savez, lorsqu'on lisait ce passage, on pensait simplement que il s'agissait de perdre son âme pour le ciel. C'est vrai. La Bible dit: à quoi ça te sert de gagner le monde entier si tu dois perdre ton âme? C'est-à-dire, si pour ce travail-là, tu vas aller en enfer. C'est vrai. Mais il y a des manières, il y a une façon de travailler où tu perds ton âme même sur la terre. C'est-à-dire, tu n'as pas la paix. Parce que l'âme est le siège des émotions. Il dit: mais ça sert à quoi de travailler, d'avoir beaucoup d'argent, et puis tu n'as pas la paix, tu n'arrives pas à dormir pour passer la nuit. Tu es obligé de prendre plein de calmants, tu es tout le temps chez les médecins, tu es tout le temps stressé. Tu dis: ça sert à quoi? Donc lorsqu'il dit à quoi ça vous sert de gagner le monde entier si vous devez perdre votre âme, non seulement il parle de perdre son âme par rapport à la flamme éternelle qu'est l'enfer après la mort, mais il parle à la perte de ta personnalité. Un travail qui te fait perdre ton âme, c'est un travail qui te fait perdre tes valeurs. Toi, une personne si douce, tu as fini par devenir méchant à cause de ton travail. Toi, quelqu'un qui était posé, tu as fini par devenir mesquin, pernicieux, sournois, parce que les types de travaux qui rapportent beaucoup exigent quelquefois de la traîtrise, exigent quelquefois, n'est-ce pas, de mettre les bâtons dans les roues à d'autres personnes, de faire tomber certaines personnes pour avoir une avancée. Certaines façons de travailler nécessitent de se prostituer pour avoir un peu mieux. En fait, Dieu dit: mais tu es en train de perdre ton âme. À quoi ça te sert de gagner le monde entier si tu dois perdre ton âme? Et vous voyez, c'est pour ce travail-là que Dieu dit de ne pas, que c'est ce travail que Dieu nous décommande vivement. Tandis qu'il dit travailler pour ce qui subsiste. Et le travail qui périt, nous avons cité quelques caractéristiques. Les prochaines fois, nous donnerons encore plus de caractéristiques de ce travail-là. Mais la plupart des croyants et beaucoup de gens travaillent avec cet esprit. Alléluia, c'est un esprit. Et ce travail-là, la Bible nous a dit, cette forme de travail perverse, cette forme de travail que Dieu n'apprécie pas, est en fait est une malédiction qui est venue sur l'homme après sa chute. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, Dieu dit: attention, maintenant vous allez souffrir pour gagner votre pain. Il dit: maintenant, avant vous souffriez un peu, mais maintenant votre souffrance sera augmentée. Rappelez-vous, il dit: j'augmenterai la douleur, j'augmenterai. Ça veut dire avec quand même un peu de douleur. Mais après la chute, la douleur a été augmentée. Il dit donc ceci: votre travail va vous produire des ronces et des épines. Il dit: la terre va te produire des ronces et des épines. Ça veut dire, tu es commerçant, mais ton commerce te produit des ronces et des épines. Tu es fonctionnaire, mais ta fonction te produit des ronces et des épines. Tu es entrepreneur, mais il y a des ronces et des épines. Et les ronces et les épines, sont les symboles du stress, des angoisses, des soucis de la vie. Nous interprétons cela sur la base de Matthieu chapitre 13, où le Seigneur dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre, qui est tombée dans une terre où il y avait des épines, donc les mêmes épines, il dit, il y a une semence qui est tombée dans une terre où il y avait des épines, et le Seigneur dit que les épines représentent les soucis, les inquiétudes, les soucis des richesses et les soucis de ce siècle. Donc les épines, ce sont des soucis. Alléluia. Et ça, c'est le travail que Adam et Ève ont hérité après avoir mangé le fruit interdit. Mais si nous ne comprenons pas le passage, nous aurons l'impression que, en fait, Adam et Ève ne travaillaient pas avant et que c'est parce qu'ils ont mangé le fruit interdit que Dieu a dit qu'ils vont commencer à travailler. Ce n'est pas vrai. Avant qu'ils aient mangé le fruit interdit, en Genèse, Dieu avait dit déjà à l'homme: je te mets dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Dis avec moi: cultiver. Et pour le garder. Dis avec moi: garder. Ce sont les deux grandes caractéristiques du travail qui bénit. Ce travail dont l'Éternel parle en disant: je bénirai le travail de tes mains. Le travail qui vous donne la paix. Le travail qui, même quand votre salaire n'est pas suffisant, vous arrivez chez vous à la maison, il y a la joie. Vos enfants sont contents.
il y a une autre rémunération qui vient du ciel. La joie ne s'achète pas avec l'argent. Alléluia. Et quand vous rentrez chez vous à la maison, vous vous entendez avec votre épouse, vous vous entendez avec votre conjoint, avec votre époux. Vos enfants sont paisibles. L'argent qui rentre à la maison crée beaucoup de paix, crée beaucoup de joie. Alléluia. Alléluia. Donc écoutez-moi bien, cher ami, ne vendez pas votre âme pour un salaire. Quel que soit le montant qu'on vous propose, ne soyez pas séduit. Il y a un autre salaire. Alléluia. Que Dieu donne à ceux qui le cherchent. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen vitaminé. Un amen très, très, très vitaminé encore. Alléluia. Donc nous voulons aujourd'hui parler du travail qui est béni par Dieu. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est quoi l'esprit de ce travail? Comment est-ce qu'on travaille ainsi? Alléluia. Je dis que le Seigneur a dit à Adam et Ève, tu vas cultiver et garder. Ça veut dire aussi que le travail qu'Adam et Ève devaient faire avait aussi des oppositions. Parce que lorsqu'on vous parle de garder une chose, ça veut dire qu'il y a un danger. Est-ce qu'on garde une chose? Est-ce qu'on surveille ou bien? Parce que garder, ça veut dire surveiller. Est-ce qu'on surveille quelque chose s'il n'y a aucun danger? Vous voyez? On surveille une chose lorsqu'il y a une menace. Et nous voyons cela, donc le travail selon Dieu, le travail d'avant la chute. C'est ce type de travail-là, c'est cette manière de travailler que Dieu nous recommande. Donc en Jean 6, 27, lorsque Dieu dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui procure le bonheur éternel, qui procure la vie éternelle. Alléluia. Dis un voisin, on ne cherche plus les salaires d'abord. On cherche le salaire du ciel. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dans la même veine, je disais la dernière fois, mercredi dernier, à ceux qui sont étudiants ou élèves, n'allez pas à l'école pour être payé par le diplôme. Ne travaillez pas pour le diplôme. Travaillez pour cultiver et pour garder. Alléluia. Si vous travaillez pour cultiver, pour garder, non seulement vous aurez le diplôme, mais vous aurez encore beaucoup de faveurs. Vous savez, moi je ne comprenais pas cela. Au départ, je croyais que ce que le Seigneur disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. J'interprétais cela comme cela. Quand le Seigneur disait, lorsqu'il disait, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens qui cherchent des choses pareilles. Nous les enfants de Dieu, nous cherchons le royaume de Dieu. Pour moi ça voulait dire, il ne faut pas trop travailler même. Ne bosse pas, cherche le royaume de Dieu. Ça veut dire, prie, jeûne, veille, évangélise. Et en classe de seconde, je me suis lancé dans cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mais déjà, j'étais au début de ma conversion, après une année, deux ans de conversion, Dieu m'a béni, j'ai fini ma classe de seconde avec une très bonne moyenne, gloire à Dieu, et je suis allé, je suis allé en classe de première C. Première. Vraiment, les mathématiciens, c'était nous. Arrivé en classe de première, je dis, oh, en seconde, j'avais 5 heures de prière par jour. J'étais élève, j'avais 5 heures de prière. Je me levais de 4 heures du matin, je priais jusqu'à 6 heures. Entre midi et deux, j'avais 1 heure de prière et le soir, 2 heures de prière. Quand je suis arrivé en classe de première, j'ai dit, il faut que j'augmente la prière parce que j'ai prié 5 heures, voici la moyenne que j'ai eue. Je vais prier maintenant entre 8 et 10 heures par jour. Là, il n'y a rien à faire. Pour parler en ivoirien, je déchire en classe. Ça dit, c'est grave. Et j'ai accru mes heures de prière. 2 heures le matin, 2 heures entre midi et deux avant de prendre le déjeuner, 1 heure et quelques après, avant d'aller au cours de l'après-midi, je vais en classe. Quand on finit les classes à 17h30, 18h, je pars à l'église. Je prie 2 heures avant le culte du soir. Le culte du soir commençait à 19h. On reste à l'église de 19h jusqu'à 21h. Et quand je finis, je rentre à la maison, 2 heures encore. Et puis après, j'ai quelques petites minutes pour travailler. Mes amis, on a fait me renvoyer de la classe. Mais je me suis dit, je n'avais rien compris. Je me suis dit, c'est une épreuve. Je suis éprouvé. Que le diable veut attaquer ma spiritualité. Il veut m'empêcher d'évangéliser. Il veut m'empêcher de prier. Je suis allé, malgré tout, tu m'as fait grâce. Je suis passé en terminale. Je suis arrivé en terminale C. Je dis, bon, je vais être quand même sage. Comme cette année, c'est une année d'examen, je vais ramener mes heures de prière aux horaires de la seconde, c'est-à-dire 5 heures. 2 heures le matin, 1 heure à midi, 2 heures l'après-midi. Et je n'étudiais pas vraiment. Ce qui va se produire, c'est qu'au premier, je ne sais plus à cette époque, c'était semestre ou trimestre, en tout cas, aux premières évaluations, le premier devoir, j'ai prié l'Éternel, c'est un devoir de mathématiques. Je dis, Seigneur, montre, parce que tu m'as beaucoup éprouvé en classe de première C. Maintenant, je t'ai montré, mon Dieu, que je suis ferme dans la foi et que je ne renie pas ma foi. J'arrive en classe de terminale, glorifie ton nom. Montre aux autres élèves que ceux qui t'adorent et qui te craignent sont la tête et non la queue. Voilà ma prière, frère. 2 heures le matin, j'arrive en classe, j'évangélise tout le monde, toutes les récréations. J'étais dans chaque salle de classe et je parlais de Jésus aux élèves. Premier devoir. J'ai prié, j'ai dit, Éternel des armées, je veux au moins 18 ou 20 sur 20. Le devoir arrivé, j'ai eu, je crois, 7 ou 8 sur 20. J'ai dit, ah Dieu, l'épreuve de la première continue alors. Tout le premier semestre ou trimestre, ça n'est pas du tout allé en mathématiques, en physique. Je n'avais jamais eu une mauvaise moyenne pareille depuis que j'allais à l'école. Mais dans la classe, on m'appelait pasteur. Je dis sûrement que c'est l'épreuve et que Dieu a voulu montrer à mes amis élèves que Mohamed Sanogo, quand vous le prenez comme ça, il n'est pas très intelligent. Mais au second semestre, Dieu va leur montrer que maintenant, il y a une différence. Parce que j'avais changé d'école. La première, j'étais dans un autre, j'étais à Gagnois. La terminale, je suis arrivé à Dalois. Donc ceux de Dalois, ils ne me connaissaient pas trop. Je dis bon. Dieu a voulu leur montrer que cet homme, parce que comme ils ne me connaissaient pas, ils vont dire, bon, il vient de loin, peut-être qu'il était intelligent depuis ses origines. Mais non, ils ont compris avec le premier semestre que je ne suis pas très fort naturellement. Mais au deuxième, 20 sur 20, j'ai demandé, as-tu près de 20 sur 20 de moyenne en maths? Le deuxième semestre ou trimestre commence, j'ai un peu oublié à cette époque ce qu'on avait. Ce qui, mes amis, les mêmes choses. Je m'attends à un 20 sur 20. Je me prends un 3 sur 20. Je m'attends en physique 17. Je me ramasse un 5 sur 20. J'étais parmi les derniers de la classe. Celui qui prophétisait être à la tête se retrouvait en train de se battre à la queue. Le pasteur avait un problème avec la queue. Le pasteur n'était pas à la tête. C'était un problème, mes amis. Mais vous savez, je suis quelqu'un de persévérant et de déterminé. Je dis que sûrement que si l'année scolaire est comme ça, c'est que Dieu veut m'éprouver. Mais arrivé au bac, Dieu va faire la différence. Avant d'aller au bac, je dis la foi doit être précise. Il faut écrire exactement ce que tu veux. Je prends une feuille, je mets mathématiques, je veux 20 sur 20. Physique, 20 sur 20. Science naturelle. Je dis bon là, c'est une science, c'est vrai, c'est exact, mais c'est pas trop une science exacte. Donc, j'ai demandé un 17 sur 20. Littérature. 16, 17, tout ça. Première épreuve scientifique en classe, je ne sais plus si c'était physique ou mathématique. Mes amis, je n'ai rien vu dans le devoir. C'est-à-dire, je regarde l'examen, la première étude de mathématiques, je ne vois rien. Je dis, Dieu, c'est pas comme ça, on a 20 sur 20. Pour avoir 20 sur 20, il faut au moins que, c'est-à-dire, je dois tout faire. Mais le premier exercice, je ne vois pas. Le deuxième exercice, je voyais un peu. J'ai fait la moitié, mais ça n'allait pas. Le troisième, j'ai fini. Mais c'était compliqué. Pourquoi? Parce que je n'étudiais pas. Et ce qui devait arriver, arriva. Échec lamentable au bac. Je dis, c'est une épreuve. C'était pas une épreuve. C'était pas une épreuve. Et Dieu va me faire comprendre ceci. Il dit, tu vois, tu crois que mon but... c'est de te donner un diplôme. Quand je fais partie d'une personne à l'école ou apprendre, c'est parce que je veux qu'elle comprenne. Dieu me dit, tu ne crois pas que je serai un tricheur si je donne à quelqu'un le diplôme de médecine pendant qu'il ne comprend rien à la médecine? Dieu dit, je ne suis pas un tricheur. Pourquoi tu veux qu'on te donne une récompense pour quelque chose que tu ne comprends pas? Imagine un médecin qui passe son temps à prier, qui n'apprend rien, comment ouvrir le corps d'un malade, comment faire truc. Il jeûne, il veille seulement. Il arrive. Hein? Au devoir, le Saint-Esprit se révèle à lui. Voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Mes amis, on a formé quelqu'un de dangereux. Peut-être qu'à la fin, il aura une récompense. Je dis, vous les hommes, vous courez après les diplômes. Moi, je forme les gens. C'est-à-dire, si je veux que quelqu'un soit médecin, je veux qu'il comprenne la médecine, qu'il comprenne et qu'il l'utilise. Je ne vais pas donner à une personne juste une reconnaissance aux yeux des hommes. C'est-à-dire, tu as le diplôme, quand on te regarde, docteur tant, mais tu ne comprends rien à la médecine, tu ne sais. Hein, mais tu vas tuer les patients. Est-ce que tu vas toujours traiter tes patients sous la révélation? Donc, quand je te donne, si je dois te donner le diplôme du bac, tu dois le mériter parce que tu as compris ce que c'est que le bac. C'est alors que je commence à comprendre qu'en fait, Dieu ne nous fait pas travailler pour un diplôme ni pour un salaire matériel. Mais Dieu nous fait travailler pour nous former. Pas pour un salaire, mais le travail divin est pour nous former. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Mais si quelqu'un est formé dans un domaine, c'est évident que lorsqu'il va passer l'examen, il va l'obtenir, il va avoir le diplôme. Parce qu'il connaît la matière. Le but de Dieu, c'est de faire acquérir par l'école ou par le travail de la connaissance. Le travail vient pour faire acquérir à l'enfant de Dieu de la connaissance et non un salaire. Amen. Et c'est cette connaissance-là qui va lui ouvrir les portes de son futur. Écoutez, toute activité professionnelle que Dieu va vous faire faire a pour objectif de vous faire acquérir une connaissance. Donc Dieu ne peut pas vous faire travailler pour votre salaire de la fin du mois, parce que lui, il sait qu'il prend ça en charge. S'il vous voit travailler pour la fin du mois, il va dire, ah, comme tu travailles pour obtenir ce que les hommes peuvent donner, vas-y, moi je ne te paye pas. Le jour où tu vas comprendre que je suis ton rémunérateur, amen, et que tu vas travailler avec mon esprit, selon mon esprit, alors tu verras que moi je rémunère ceux qui travaillent selon mon esprit. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est cet élément-là que nous voulons détailler et que Dieu explique donc en Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, 15, Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, Adam et Ève avaient deux tâches particulières, cultiver et garder le jardin. Mais vous convenez avec moi que le jardin avait déjà des fruits. Donc, Adam et Ève ne travaillaient pas pour manger. Il y avait déjà à manger dans le jardin d'Éden. Mais, ils travaillaient pour autre chose, pour cultiver. C'est pas seulement cultiver le jardin, mais c'est aussi se cultiver. C'est cultiver le jardin, mais c'est se cultiver. C'est cultiver tout ce que Dieu leur donnait. Et cultiver a des caractéristiques. Alléluia. Toute personne qui connaît les plantations, qui connaît le champ, qui connaît la culture, sait qu'il y a des règles. Donc, le travail de Dieu est un travail pour cultiver. Alléluia. Or, le travail, après la chute d'Adam, est un travail pour manger. Le travail, après la chute, est un travail pour payer ses factures. Le travail, après la chute, est un travail pour mettre ses enfants à l'école. Or, les fils de Dieu savent que Dieu va mettre leur enfant. Et il ne s'inquiète pas pour cela. C'est pourquoi il dit, regardez les eaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne. Il n'est pas en train de nous dire de ne pas travailler comme les oiseaux. Il dit, pour ce que vous allez manger, pour votre vêtement, là, je le gère déjà. Donc, travaillez pour autre chose. Pas pour votre fin du mois. Car quand vous travaillez pour votre fin du mois, c'est un manque de foi. Il dit, vous agissez comme les païens. Et si vous vous mettez à travailler pour un salaire, vous travaillez avec l'esprit du monde. Et si vous travaillez avec l'esprit du monde, votre travail va vous produire des ronces et des épines, des soucis. Vous serez chrétien, mais comme vous travaillez avec l'esprit du Adam qui a chuté, l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais vous allez moissonner. Voilà, donc vous allez avoir un salaire à la fin du mois, même avec des disputes à la maison, un salaire à la fin du mois, mais quelqu'un à la maison qui est toujours malade. Donc votre salaire va passer à constamment amener votre enfant à l'hôpital. Tout le salaire passe à l'hôpital. Donc vous serez là, vous savez, mais vous ne bâtissez pas quelque chose qui demeure pour la vie éternelle. Tout simplement parce que vous êtes mis sous un autre joug, qui n'est pas le joug de Dieu, qui n'est pas le joug de Genèse 2.15, qui dit travaillez pour cultiver et garder. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alléluia. Pourquoi cela? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on atteigne? Dans le livre de Romains, il exprime que la perfection invisible de Dieu, la sagesse de Dieu, se voit comme à l'œil nu, lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il exprime? Il veut dire que dans tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a fait, les plantes, le bois, la terre, les carreaux, parce que tous ces trucs-là, on les prend dans les montagnes, dans les rochers. En fait, tout ce qu'il a fait, il dit, sa perfection se voit à l'intérieur. Dieu se découvre dans les œuvres qu'il a faites. Cultiver, je reviendrai là-dessus, cultiver une chose permet de découvrir Dieu. Si vous êtes un agriculteur comme Dieu veut que vous le soyez, dans l'agriculture, vous allez trouver Dieu. Si vous êtes ferronnier et que vous faites le, vous travaillez le fer avec la mentalité divine, il y a des choses et des secrets que le fer va, la connaissance du fer va vous dévoiler. Si vous décidez d'être couturier ou couturière, si vous travaillez la couture selon l'esprit de Dieu, pas pour un salaire, il y a des choses que vous allez découvrir. Parce que mes amis, Dieu est botaniste, Dieu est cultivateur, Dieu est couturier, Dieu est cordonnier, Dieu est ferronnier. Tous les corps de métier existent en Dieu. Dieu est tellement grand. Alors, il est économiste. Quoi encore? Même journaliste, il est journaliste. Il a fait écrire la Bible avec des commentaires. Tout ça là, c'est Dieu. Il est écrivain, il est commercial. Il nous apprend comment aller annoncer l'évangile, comment vendre l'évangile de Jésus. Dieu est commercial. Quoi encore? Mais tout ce que vous voulez, la Bible dit que tout est en Dieu. Tout est en Dieu. Mais tout est en Dieu de manière brute. C'est-à-dire, en fait, tout est en Dieu, mais tout se trouve sur la terre de manière brute. Ça veut dire, la terre attend d'être exploitée. Ça veut dire, la terre attend que l'homme vienne l'amener à révéler Dieu. Tout ce qui est précieux a besoin d'être travaillé. L'or est très précieux, l'or est caché, mais il faut le travailler. La terre, c'est pourquoi la Bible dit, la création a été soumise à la vanité. Et que toute la création soupire, elle attend la révélation des fils de Dieu. Mes amis, ce n'est pas qu'elle attend des prieurs. Si la terre attendait des prieurs, il faut savoir que les anges aussi prient. Donc ce n'est pas ce qu'elle attend. La terre attend qu'elle soit exploitée comme elle. Voilà. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les hommes l'exploitent, mais ils exploitent dans le but de détruire. Quand ils prennent le pétrole, ce n'est pas dans un bon esprit. C'est dans l'esprit de l'argent. Et leur quête du matériel crée les guerres. La quête du diamant crée la guerre. La quête de l'or crée la guerre. Ça crée des soucis et des angoisses. Mais la terre attend. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alors, on peut diviser les grandes étapes du travail en deux caractéristiques, comme je l'ai dit tantôt. Cultiver et garder. Alléluia. Aujourd'hui, le temps ne va pas me permettre de toucher vraiment garder. Je veux rapidement toucher les 6 points de cultiver. C'est-à-dire 6 principes pour cultiver efficacement. Donc tu dois faire 2 choses. Tout ce que Dieu te donne doit être cultivé et gardé. Je reprends, cultiver et garder. Maintenant, comment on cultive? Alléluia. Dieu te donne d'être maçon. Comment est-ce qu'on cultive? C'est quoi l'esprit? Comment est-ce qu'on cultive? Dieu te donne d'être paysan. Dieu te donne d'être, je ne sais pas, peu importe le corps de métier, tu dois le cultiver. Je vous invite déjà à lire Genèse chapitre 39 à compter du verset 1. Il est dit, bon, avant de lire le passage, donc je rappelle, je vais parler donc de 6 principes maintenant, n'est-ce pas, pour cultiver efficacement. 6 principes pour cultiver efficacement. Après, on va toucher les différents principes pour garder. Je ne suis pas sûr de pouvoir les toucher aujourd'hui. Mais au moins parlons déjà des principes pour cultiver. Parce que garder, c'est autre chose. Alléluia. Voilà. Il y a des personnes qui cultivent mais qui ne gardent pas. Il y en a d'autres qui ne cultivent pas, qui ne gardent pas. Il y en a d'autres aussi qui veulent garder ce qu'ils n'ont pas cultivé. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas cultivé. Amen. Donc, cultiver et garder. Pour cultiver, 6 principes. Avant de toucher le premier principe, lisons Genèse 39, verset 1. Il est dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Genèse 39, verset 1 à 6. Alléluia. Je vous invite aussi à lire Genèse chapitre 1, verset 28. Il est dit, Genèse 1, 28 dit ceci, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Nous allons comprendre pourquoi j'utilise ces différents passages. Le premier principe pour cultiver efficacement, c'est travailler avec le but, avec un but. Amen. Amen. Lorsqu'on va cultiver, on a un projet, n'est-ce pas? Donc, cultiver, ce que Dieu vous donne, c'est avoir un projet. Si l'Éternel vous amène à être comptable, il faut avoir un projet. Amen. Il faut avoir un but. C'est la première des choses. Alléluia. Mais il faut avoir le but de Dieu. Donc, le premier principe pour travailler efficacement, c'est travailler avec le but divin. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis le début. Que il y a des personnes qui travaillent avec le but d'un salaire humain. Et il y a les fils de Dieu qui doivent travailler avec l'objectif, avec le but du salaire divin. Pas du salaire humain, mais du salaire divin. La Bible dit ceci en Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Amen. Le Seigneur dit ceci, dans toute activité professionnelle que vous avez à faire, selon ce passage, considérez toujours que vous ne travaillez pas pour un homme, mais que vous travaillez pour Dieu. C'est le premier principe pour cultiver selon Dieu. Alléluia. Celui qui va au champ a un projet. Celui qui veut cultiver a un projet. On ne cultive pas au hasard. Vous voyez quelqu'un dans la rue, il prend une houla et puis il s'élève. On dit, mon frère, tu fais quoi? Je cultive. Non, ça, si tu veux planter les EVA, tu veux aller cultiver les EVA, tu sais que tu vas faire les EVA. Si tu veux faire la tomate, tu sais que tu vas faire la tomate. Si tu veux aller, en tout cas, quelque chose, ce que tu vas faire. Donc, cultiver sous-entend un objectif, un projet. Alléluia. Et quel projet? Le projet de Dieu. Nous travaillons pour un projet humain, pour avoir la récompense des hommes. Dieu dit non. Il faut travailler comme si vous travaillez pour moi. Et dans ce passage, il nous montre bien le parallèle. Il dit, vous pouvez vous retrouver chez des maîtres, chez des patrons. Certains sont bien, d'autres compliqués. mais ne travaillez pas comme si vous travaillez pour eux. Pourquoi? Dès l'instant où vous travaillez pour une entreprise, ça veut dire dans votre esprit, vous êtes en train de travailler pour la boîte, c'est que vous vous attendez directement à la rémunération de la boîte et non plus à la rémunération céleste. Vous savez, c'est juste quelque chose qui se passe en pensée. Alléluia. C'est le même travail. Mercredi dernier, je disais ceci. Je dis, je ne vous demande pas de quitter votre boulot, mais je vous dis de changer l'esprit avec lequel vous partez au boulot. Pour que votre travail vous donne le résultat céleste, il faut travailler avec l'esprit des célestes, l'esprit des enfants de Dieu. Quand on dit céleste, on dit l'esprit des célestes. Je suis pas en train de dire l'esprit des boubous blancs. Faites attention. Je dis travailler avec l'esprit des fils de Dieu, des fils du ciel. Alléluia. Céleste, ça veut dire le ciel, mon frère. Ok. Donc, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Celui qui va cultiver, cultive pour un but. Donc, si je veux travailler selon Dieu, il faut que Dieu et moi, on soit d'accord. Or, Dieu ne va me payer que si je considère que je travaille pour lui. Tu travailles dans une banque de la place. Ne quitte pas la boîte. Mais lorsque le matin tu te lèves et que tu vas au boulot, ne considère pas que tu travailles pour que cette boîte-là fasse ses bénéfices. Et puis, dans leurs bénéfices, ils vont te récompenser. Dis-toi que c'est la maison de l'Éternel. Prends tes affaires. Va au travail parce que ton patron t'attend et ton patron, c'est l'Éternel. Ton patron qui est l'Éternel contrôle tes heures d'entrée. Ton patron qui est l'Éternel contrôle la façon dont tu travailles. Dis-toi que tu travailles pour Dieu. Je t'assure. Dès l'instant où tu vas te dire que tu travailles pour un homme, tu vas laisser dans ton cœur entrer les ronces et les épines. Parce que quand les patrons seront bizarres, l'aigreur va te gagner. L'amertume va te gagner. L'amertume est un symptôme des épines. Rappelez-vous, je vous ai dit que les ronces et les épines, ce sont les soucis, hein, et les inquiétudes, les soucis de ce monde. Donc, si je sens les soucis et les inquiétudes, c'est que je ne travaille plus pour Dieu. Pourquoi tu es fâché? Parce que pourquoi tu n'as pas envie de parler au travail? Parce que ton chef de service te parle mal. Mais tu ne vas pas au travail pour lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à un voisin, change ta mentalité. C'est pourquoi Jésus dit ceci: le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Ça veut dire Dieu s'apprête à faire de grandes choses pour vous. Changez votre mentalité. Changez votre manière de raisonner. Ne travaillez plus selon l'esprit du monde. Eux, ils s'attendent à ce que la structure qui les emploie soit leur rémunératrice. Et j'ai lu ceci, Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que l'Éternel existe et qu'il est le payeur ou le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes amis, Dieu paye. Moi, je vis le salaire de Dieu. Je vous parle d'une réalité, mes amis. Ce n'est pas de la théorie. Je vis le salaire de Dieu. C'est trop puissant, le salaire de Dieu. Les hommes ne peuvent pas vous donner cela. Je ne peux pas dire, ça dit que selon les hommes, il y a peut-être un per diem qu'on me remet tous les mois. Parce qu'il y a l'église, on est très réglementé. Parce qu'il y a quelque chose qui est défini. Mais je ne regarde même pas le per diem. C'est-à-dire, si je veux calculer avec ça, là, l'école où je souhaite envoyer mes enfants, ils ne pourront pas y aller. Je dois aller faire des voyages pour la mission. Je ne pourrai pas y aller. Je ne pourrai pas. Il y a des fois, vous ne pouvez pas comprendre. Je me lève et puis je dis, oh Seigneur, ces vacances-ci, je veux aller, je pense à tel pays. Dieu m'offre le billet. Un jour, les gens m'avaient invité pour une conférence en Guadeloupe. Et je priais. Je n'avais pas d'argent. Je dis, ah, ça sont des... Je vais aller en Guadeloupe, je vais dans les îles là, je vais prêcher la parole de Dieu. Je dis, mais tu es dans les îles sans ta femme, c'est pas bien. Bon, les gens, ils vont payer, ils payent le billet de l'orateur. Mais ils ne s'apprêtaient pas à payer le billet de ma femme. Et je partais dans quelques jours. Mais Dieu est celui qui paye ses enfants. Mes amis, je n'ai même pas fini de penser. Un frère rentre dans mon bureau et il m'offre un billet d'avion. Il dit, pasteur, je viens de gagner un concours, un jeu là. En tout cas, on m'a tiré au sort, on dit, j'ai un billet d'avion. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais quand j'ai reçu, Dieu m'a dit, mais c'est pour toi. J'ai dit, mais voilà. Voilà. Alléluia. Alléluia. Mes amis, lorsque la crise se produit, la crise se passait ici, moi j'ai décidé, je dis bon, les gens m'ont dit, passez en Europe, tu es en danger, quitte le pays, parce qu'on sait que bon, tu avais des affinités avec les anciens dirigeants, on t'a vu à la télé avec eux, tout ça. Mais Dieu, j'étais serein. J'ai dit, Seigneur, tu nous gardes. Et mon chou, Dieu me dit, tu vas partir. Fais partie ton épouse, fais partie les enfants. Il m'a dit ça en 2 jours. Là, Dieu m'avait fait la grâce. J'avais un peu d'argent sur moi qui pouvait prendre les billets. Puis, à force de voyager, j'ai des avantages. J'ai dit, bon, on peut se gérer, je peux les faire partir. Mais logement, déplacement, mes amis, en moins de 2 jours, j'ai passé un coup de fil pour dire que j'arrivais. Dès que je dis que j'arrivais, 2 maisons se sont dégagées pour moi. 2 maisons. En France, 2 maisons. On dit, pasteur, voilà notre maison. Voiture, GPS à l'intérieur, réfrigérateur rempli. C'est-à-dire, ne t'inquiète de rien, viens avec ta femme et tes enfants. Quelque chose que j'ai décidé en moins de 2 jours. Mes amis, aucun salaire ne peut arranger la vie pour vous pareillement. Vous savez, aucun salaire. Il y a des choses que votre salaire ne peut pas prévoir. Mais quand Dieu vous rémunère, il prévoit tout, il assure tout. Alors si vous vous mettez à travailler avec le but et les pensées des hommes, il y a un salaire que vous n'aurez pas. Mais si vous partez au travail en disant, ce que je fais c'est pour le roi, ce que je fais c'est pour mon Seigneur. Même si mon patron physique sur la terre est bizarre, moi je considère que je travaille pour Dieu. Je considère que Dieu est mon employeur. Si cela est votre mentalité, alors je vous dis, ok, tu rentres maintenant dans le cadre de mes employés. C'est moi maintenant qui te paye. Donc non seulement sur la terre, ton patron terrestre va te donner le petit salaire qu'il te doit, mais au ciel, Dieu complète. Dieu dit, oh, ce salaire qu'il a donné, ça fait combien? 100 000 francs, ça, tu ne peux même pas payer ton loyer. Bon, moi je te paye parce que j'estime que tu as travaillé avec le cœur que je voulais. Bon, ce mois-ci, le diable a voulu t'attaquer, tes enfants sont malades, aucun enfant n'est malade. Et même si quelqu'un a mal à la tête, à peine tu vas rentrer à la pharmacie, quelqu'un prend tout pour toi. Ça, c'est le salaire de Dieu. Dieu prend tout en charge. Dieu va te bénir si tu travailles avec l'esprit de travailler pour lui. Éphésiens chapitre 6, alléluia, que nous venons de lire. Amen, amen, est-ce qu'on est ensemble? Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement. Ça dit, obéissez à vos patrons. Non seulement sous leurs yeux, ça veut dire quand ils sont présents et quand ils sont absents. Ça veut dire, ne travaille pas pour eux parce qu'ils sont présents. Il dit, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il dit, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes. Amen. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça, c'est la première caractéristique de la culture. Celui qui cultive s'attend à un type de salaire. Donc, c'est le but, n'est-ce pas? Si je vais cultiver du maïs, il y a un salaire pour la plantation du maïs. C'est du maïs. Si je cultive de l'évier, il y a un salaire. Ça veut dire, ma culture va donner quelque chose. Et c'est normal que celui qui cultive recherche quelque chose. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, recherche mon salaire. Or, pour que je te considère comme mon employé, donc travaillant pour moi, il faut que l'activité dans laquelle tu te trouves, tu sois soumis à tes patrons, tu bosses sérieusement dans l'activité, pas comme si tu le faisais pour eux, mais comme si tu le faisais pour moi. De sorte que si ton patron même ne te contrôle pas, tu sais que moi, Dieu, je te contrôle. Si ton patron, tu es pressé d'aller au travail parce que ton patron sera là aujourd'hui à 8 heures, et quand ton patron a voyagé, c'est là maintenant, toi, tu arrives à 11 heures. C'est que tu travailles pour ton patron, tu travailles pour Dieu. Ce que je dis, c'est quelque chose de très pratique. Celui qui travaille pour Dieu se dit que Dieu le regarde. Celui qui travaille pour son patron aménage son programme en fonction de l'absence ou de la présence de son patron. Quand le patron est là, enfin, on va respirer. Ah, putain, on va respirer. Et maintenant, comme on dit, allons, allez, tu fais ce que tu veux. Non, non, non. Ce que tu fais, c'est pour Dieu. Ton patron est parti en mission, Dieu est là. Ton patron te dit, on commence à travailler à 7h30. Il n'est pas là. 7h30, tu es pointé. Amen. Il dit, on quitte le boulot. 17h, il est parti. Personne ne te contrôle. 17h, tu es là. Si tu commences à tricher parce qu'il n'est pas présent, fais attention. Tu es en train de changer d'employeur. Tu es en train de dire, moi, mon employeur, c'est mon patron qui est là. Dieu, tu n'es pas mon employeur. Si Dieu est ton employeur, travaille comme pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Mais après, vous allez voir pourquoi c'est doux et léger. Le travail, quand on travaille pour Dieu, ce n'est pas stressant. Quand tu travailles pour les hommes, c'est très stressant, angoissant et déprimant. Parce que les hommes sont bizarres. Amen. Mais si tu travailles pour Dieu, tu supportes les caprices des patrons bizarres. Et c'est pourquoi j'ai cité l'exemple de Joseph. Joseph, involontairement, s'est retrouvé esclave chez un monsieur qu'on appelle Potiphar. En tant qu'esclave, il n'avait pas un salaire que les hommes pouvaient lui donner. Mais Joseph va travailler avec diligence, va travailler avec sérieux. Pourquoi? Parce que dans son cœur, Joseph considérait qu'il ne travaillait pas pour un homme. Dans les faits, sur le plan matériel, le père de Joseph était énormément riche. Je rappelle que le père de Joseph, c'est Jacob, fils d'Abraham. Et Abraham était multimilliardaire, Isaac multimilliardaire, Jacob multimilliardaire. Joseph, fils préféré de Jacob. Et Joseph se retrouve esclave chez M. Potiphar. Son père peut employer Potiphar. Jacob peut employer Potiphar. Mais Joseph arrive là-bas, on l'envoie comme esclave. Et Joseph travaille avec diligence. La Bible dit, tout ce qu'il entreprenait dans la maison de Potiphar était béni. Et il s'est tellement béni que Potiphar va donner à Joseph d'aller, va lui demander de grandir dans son échelon de responsabilité. Amen. Il va progresser. Il est dit, regardez les différentes étapes. Il est dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains ce qu'il entreprenait. Donc Joseph touche les choses, ça prospère, ça devient bien, il le fait très bien. Deuxième chose, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Donc au départ, il ne travaillait pas directement pour Potiphar, il travaillait pour des personnes intermédiaires. Mais quand le patron fait les comptes, il voit que le sous-employé là-bas, tout ce qu'il touche est béni. Et Potiphar dit, bon, maintenant tu vas travailler directement avec moi. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, il a travaillé avec lui. Après, il dit, non, tu es trop efficace. Il dit, maintenant, tu es le chef de ma maison. Il a établi. Troisième étape, alléluia. Quatrième, il lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, tu ne travailles pas pour moi. Deuxièmement, tu travailles pour moi. Après, je te confie ma maison. Je vois que tu es tellement efficace. Je dis, c'est même plus ma maison. Tout ce que je possède, mes plantations, tout ça, Joseph, tu vas les gérer. Amen. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. C'est-à-dire, quand il lui avait même tout confié, Potiphar faisait un contrôle. À un moment donné, Joseph était tellement efficace, lorsqu'on dit il a tout abandonné, ça veut dire qu'il ne contrôlait plus rien. Il dit, si c'est Joseph, je dors tranquille. Il dit, il avait d'autres soins. Tout ce qu'il faisait à la maison, c'était de manger. Joseph gérait avec équité, avec honnêteté, avec sérieux. Et ce jeune homme a grandi. Il est allé en progressant. Et c'est une particularité du travail, de cultiver le travail, qui est très important. Et c'est quoi cette particularité? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure en Genèse chapitre 1, verset 28. Amen. Qui nous amène à voir donc le deuxième principe de cultiver. Ce que Joseph a fait va nous amener à voir les principes suivants. Genèse 1, 28 qu'on a lu tantôt, Dieu explique à l'homme la façon dont il veut que l'homme fasse ses activités. Il dit à l'homme, soyez fécond. C'est un travail aussi, non? Être fécond, c'est-à-dire avoir des enfants, ça c'est du travail. Mais soyez fécond, ça ne veut pas simplement dire ayez beaucoup d'enfants. Parce que même être enceinte, là, c'est un travail. N'est-ce pas les mamans? Ah bon. Maintenant, il dit, soyez fécond. Dans l'anglais, le mot utilisé, c'est le mot fruitful. Produisez des fruits. Donc, il dit à l'homme, sois fécond. Ça veut dire, aient des fruits. Ça, ça parle du travail. Faut produire du fruit. Après, elle dit, soyez féconds. Après, elle dit, multipliez. Regardez le passage. Il n'a pas dit multipliez-vous. Hein. Il dit multipliez. Il y a certaines versions qui traduisent mal. Elles disent, non, s'il a dit multipliez, c'est dit multipliez-vous. Non. Le texte hébreu là, n'a pas mis vous devant. On dit multipliez. C'est-à-dire, si c'est vous-même, multipliez-vous. Si on te donne. Je sais pas. On te demande de cultiver, par exemple, la chanson, multiplie la chanson. Si on te demande de travailler le bois, multiplie. Maintenant, pour comprendre la notion de multiplier, on va le voir, c'est la clé qui va suivre. Multiplier ne veut pas dire simplement avoir beaucoup. Ça veut dire, le mot hébreu qui est utilisé signifie aussi accroître la capacité d'une chose. Après, il dit, il ne faut pas seulement multiplier, il dit remplir, remplissez. S'il s'agissait d'eux-mêmes, ça veut dire vous-même, remplissez la terre et tout ce que je vous donne, faites en sorte que cette chose-là puisse remplir. Remplir signifie combler un vide. Amen. Ça signifie que le travail de Dieu doit combler, travailler selon Dieu là, doit combler un vide. On arrive. Et puis il dit, donc remplissez, après il dit assujettissez. Tout ce que tu fais doit assujettir. Et puis il dit dominer. Si vous regardez les étapes, Joseph a fait tout cela. À la fin, Joseph dominait. Il était le boss. À un moment donné, il a assujetti. Il a rempli. Il a multiplié. Il a été fécond, fruitful, remplissage, multiplication, pardon, remplissage, assujettissement, domination. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alléluia. Et c'est là, donc voici le travail de la culture. La cultiver, c'est ces différentes étapes-là. Ce que Dieu appelle cultiver, c'est un objectif. La première des choses qui sont traduites là-dedans, qui est la deuxième clé, c'est que il faut être fécond. Fécond, ça parle de la semence, ça parle du petit commencement. Cultiver, dans son sens simple, c'est que on ne va pas au champ, on ne cultive pas des choses qui sont déjà grandes. On commence toujours petit. On va toujours avec des semences. Ça signifie quoi? Que le travail de Dieu commence toujours de manière petite. Dieu ne commence jamais grand. Autrement dit, celui qui veut travailler selon Dieu doit apprendre à gérer efficacement les petits commencements. Toute personne qui méprise les petits commencements ne va plus travailler dans le cadre de Dieu. Elle n'est plus en train de cultiver. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des frères qui viennent souvent nous voir. Pasteur, je vais travailler. Je dis, il te faut, tu veux quelque chose? Oui. Il monte un projet. Mon projet va changer la terre. Va changer la Côte d'Ivoire. Et j'ai reçu récemment des documents. Quand tu vois le budget là, 40 millions, 50 millions. Tu demandes à la personne, elle n'a rien. Mais le projet est tellement clair que si elle est financée, il n'y a rien à faire. Celui qui l'a financée, elle pourra rembourser. Mes amis, c'est pas vrai. La Bible dit que le royaume de Dieu, le travail de Dieu commence toujours petit. Dieu ne commence jamais grand. Même Jésus-Christ pour venir sauver la terre, là, il n'est pas né grand. Il est venu nous délivrer à l'âge de 30 ans, mais quand même, il est né bébé. De bébé jusqu'à 30 ans, là, c'est comme si on n'avait pas eu trop besoin de lui. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'il a fait, à part à 12 ans seulement où il est apparu. Mais malgré ce fait, on a dit, mais Dieu, prends un raccourci, on a besoin de lui à 30 ans. Allons droit au but. Dieu dit, non, il faut qu'il soit bébé. Il faut qu'il apprenne à grandir. Il faut qu'il apprenne à juger les choses. Il faut qu'il apprenne, même s'il est Dieu, même si Jésus est Dieu, il doit apprendre. Tout ce que Dieu fait commence petit. Petit. Et je vous ai dit cet enseignement. Tout projet financier qu'on vous donne, qui est, je ne sais pas, 5 fois, 10 fois supérieur à tout ce que vous possédez vous-même en épargne, Non, le revenu est supérieur à tout ce que vous possédez en épargne, n'est pas de Dieu. Tout ce qui est placement d'argent, subitement, tu dis tu vas devenir multimillionnaire du jour au lendemain. Écoute-moi, c'est le diable. Le travail du diable est paresseux. Il refuse de cultiver. Il dit, hey, mon frère, tu fais deux ou trois trucs. En même temps, tu sors de la pauvreté. C'est diabolique. J'ai dit, c'est diabolique. Beaucoup parmi vous se sont fait escroquer, tromper. On vient vous miroiter des choses. On dit, mon frère, arrête de souffrir. Voilà un placement. Tu donnes ton argent. Regarde, c'est certain, on travaille. En 3 jours, en 1 mois, tu vas avoir 1 million tous les mois. Or, avant 1 million tous les mois, tu n'arrivais même pas à avoir 15 000 francs par mois. Tu crois que Dieu va te faire passer de 0 francs par mois à 1 million par mois? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu va t'apprendre à gérer 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Je t'ai dit, Dieu ne triche pas. C'est pourquoi je vous ai rendu mon témoignage. Comment? Dieu m'a dit, tu crois quoi? Je vais te donner le bac pendant que tu ne comprends rien en mathématiques. Apprends. Et pour apprendre les maths, pour apprendre la physique, il faut commencer petit. Il faut commencer à apprendre les bases. Et puis après, quand on progresse, Dieu commence toujours petit et il fait grandir. C'est ça la notion de cultiver. Le cultivateur ne va pas tomber dans un champ d'EVA avec les EVA qui sont grands. Il ne va pas tomber dans un champ de cacao. On dit, viens cultiver. Non. Aller au champ, aller cultiver, c'est commencer avec une semence. C'est commencer à planter. C'est commencer à veiller sur le peu. C'est commencer à garder sa plante contre les insectes et la voir grandir. C'est ça, cultiver. On te met dans un champ, tu dis, tu veux, on dit, mon frère, en ce moment en Côte d'Ivoire, EVA, ça marche. Mais l'EVA marche, mais il n'est pas pressé. Il faut 5 ans avant qu'il te donne son salaire. C'est combien? 7 ans. Ah, vous connaissez. Et pendant ce temps-là, tu dois veiller, tu dois garder. Tout ce que Dieu fait commence ainsi. Il faut que vous le compreniez. N'ayez pas peur des faibles commencements. Dieu va vous amener loin. Alléluia. Zacharie 4:10. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Dieu commence petit. Matthieu chapitre 13. Il leur proposa une parabole et il dit, Matthieu 13:31, il leur proposa une parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de senevé qu'un homme a pris à semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les anges, la gloire de Dieu vient dans tes branches. Mais avant que la gloire de Dieu vienne dans l'arbre, Dieu va te donner une semence qui est la plus petite de toutes les semences. C'est ça, cultiver. Cultiver, c'est aller au champ avec des semences. Cultiver, c'est porter une semence. Cultiver, c'est porter une chose qui n'a pas de forme. La semence ne ressemble. Quand tu vois le noyau, en quoi ça ressemble à un manguier? Tu regardes des petites graines insignifiantes comme ça. Mais ce qu'elles peuvent donner. Et celui qui va cultiver est celui qui, lorsqu'il regarde une semence, ne voit pas la graine. Il ne voit même pas. Parce que quand vous regardez, hein, imaginez-vous, je tiens un noyau de mangue dans ma main. Et je vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Tu as dit un noyau. Moi, quand je regarde, il y a un qui va dire, moi, je vois un arbre. Mais il y a plus qu'un arbre. Dans cet arbre, il y a beaucoup de mangues. Dans les mangues qui sont dans ce seul noyau, il y a beaucoup de mangues. Et chaque mangue transporte un manguier. Et chaque manguier transporte encore. Donc, un noyau détient plus d'une plantation. Si vous n'apprenez pas à discerner les faibles commencements, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu. Vous allez être séduit par ce qui frappe, par ce qui est éclatant. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur dit ceci, psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Toute semence, quand vous la portez, vous avez envie de pleurer. Tu dis, mais regardez un champ, quel jour? Moi, il y a ma mère qui a commencé à faire les EVA. Quand tu vas là-bas, tu regardes les petits arbres, tu dis, hé, quel jour on va jouir de son fruit? On peut avoir des besoins, mais il faut savoir commencer petit. Il faut savoir commencer avec ce que vous avez. Ah, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Ça traduit la notion d'être fécond. Le fruit apporté, la semence apportée. Dieu dit, soyez féconds. Après cela, il dit multiplier. Amen. Je dis que multiplier dans le sens hébreu signifie développer. C'est la troisième caractéristique du cultiver. Pour cultiver une chose, il faut savoir multiplier. Ça veut dire qu'il faut que la chose se développe. Donc travailler pour développer tout. Le Seigneur dit qu'il faut multiplier. Qu'est-ce que Joseph a fait chez Potiphar? Joseph a accru ses compétences. Et c'est ça, c'est ça qui traduit vraiment cette notion aussi de se cultiver. Il faut apprendre, il faut travailler pour apprendre. Parce que tout ce que vous apprenez cache des mystères. Joseph était l'économe de la maison de Potiphar. Je vous ai souvent donné cet exemple. Il a tellement compris le sens de l'économie et de la gestion. Parce qu'il ne travaillait pas pour un salaire. En tant qu'esclave, il n'avait pas de salaire. Donc, pourquoi Joseph déployait-il autant d'énergie pour un monsieur qui n'a même pas les moyens de son propre père? Moi, je crois que lorsque Joseph est devenu chef de la maison de Potiphar, il aurait pu s'échapper. Il aurait pu dire, un matin, on se l'a dit, bon, Joseph va faire une course au marché. Il prend un chameau, il dit, patron, j'arrive. Il dit, toi, tu m'as bien vu. Avant, là, peut-être, j'avais des chaînes, il y avait des gardes qui me suivaient. Mais maintenant, parce que l'Égypte et puis Israël, c'est des pays voisins. Il prend un chameau et puis il s'en va. Il arrive chez son père. Je me suis tout le temps posé la question, mais pourquoi Joseph est resté chez Potiphar? Surtout que là-bas, il y avait une femme bizarre qui voulait le fatiguer. En fait, j'ai vu que c'est les hommes de Dieu qui travaillent selon Dieu, ne travaillent vraiment pas pour l'argent. Ils travaillent pour développer, pour accroître. C'est-à-dire, si vous êtes même balayeur, c'est vrai que vous allez avoir un salaire à la fin du mois. Vous allez le prendre, que le nom du Seigneur soit béni. Mais travaillez tous les jours pour que ce que vous faites soit bien fait. Apprenez les secrets du nettoyage. C'est-à-dire, mais pour les apprendre là, il faut le faire de tout son cœur. Si vous le faites, le nettoyage va vous révéler des secrets. Ce qui va se produire, c'est que vous ne le savez pas, mais demain, vous allez avoir une récompense au-delà de vos attentes. Cette aptitude-là va vous ouvrir des portes. Lorsque Joseph s'est retrouvé chez Pharaon, je l'ai dit la dernière fois, ce qui a fait qu'on l'a nommé premier ministre de Pharaon, ce n'était pas l'interprétation des songes. Il a d'abord interprété le songe. Le songe qu'il a interprété, au plus, ça allait le faire sortir de la prison. Après, lorsqu'il expliqua à Pharaon, « Pharaon, monsieur le Pharaon, voilà comment vous devez gérer le pays. Faites un calcul. Enlevez un cinquième de toutes les récoltes. Voilà comment vous devez positionner. » Mes amis, c'était de la macroéconomie. Joseph a fait un plan de redressement économique. Où a-t-il appris cela? Chez Potiphar. Mais les Potiphar même étaient des ministres. Donc Potiphar aurait pu donner la solution au problème. Mais Potiphar même, qui connaissait ses plantations, il n'avait pas encore eu la révélation. Ça veut dire que Joseph a travaillé avec un esprit supérieur à tous ceux qui travaillaient dans la plantation, à tous ceux qui travaillaient dans la maison. Ce qui a fait qu'il a commencé à découvrir le mystère qui se trouve dans la gestion. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi j'aime la parole de Dieu. Je travaille la parole. Je développe la parole. C'est pas que je fais ces choses pour mieux prêcher, pour être apprécié des hommes, parce que ça c'est les salaires des hommes. Lorsqu'on part en évangélisation, je ne veux pas évangéliser pour me faire un nom, parce que ça c'est le salaire des hommes. Mais la passion de bien faire, la passion de voir les âmes sauvées, prendre le temps après, réécouter le message, Saint-Esprit, est-ce que tu as touché les cœurs? Et puis je cherche la face de Dieu. Et au fur et à mesure, je commence à découvrir beaucoup de choses dans la parole, des choses que je n'étais pas censé comprendre. Et dans tout ce que je fais, j'ai commencé à comprendre que chaque œuvre sur la terre cache un mystère. C'est pourquoi la Bible dit, rappelez-vous ce que je vais lire dimanche dernier, le travail est le trésor de l'homme. Dans un travail qu'on vous donne volontairement ou involontairement, se trouve votre destinée. Lorsque Joseph allait chez Potiphar, le travail qu'il faisait chez Potiphar n'avait rien à voir avec le songe qu'il avait reçu. Écoutez-moi, il n'y a aucune personne qui reçoit de manière précise l'activité qu'il va mener plus tard. Dieu te dit tu seras grand, mais tu ne sais pas dans quel chemin. Tu ne sais même pas. Quand tu parles même ça avec hésitation, tu dis peut-être demain, moi je serai député. Mais le chemin même pour aller à la députation, tu ne sais pas. Pourquoi les gens vont te voter, tu ne sais pas. Et Dieu va te faire travailler dans des petites structures insignifiantes. Vous savez, Joseph n'a pas choisi d'être l'esclave de Potiphar. Avant que vous entrez dans votre destinée, la vie va vous obliger d'une manière ou d'une autre à faire des activités qui ne sont pas forcément celles que vous auriez souhaitées. Vous me suivez? Joseph n'a pas dit, moi-même, je sais qu'un jour je serai premier ministre. Donc pour être premier ministre, voilà mon plan. Année 3, je dois aller en Égypte travailler chez un gars qu'on appelle Potiphar. Parce qu'un homme doit être planifié et avoir des objectifs. Je vais être premier ministre d'Égypte, voilà ma planification. La vie ne fonctionne pas comme ça, c'est pas droit. Il y a des choses qui vous arrivent, qui vous surviennent. Tu es avec tes parents, vous êtes bien. Un coup, ton papa part au chômage. Tu n'as plus d'argent, il faut que tu ailles travailler. Les difficultés familiales t'obligent à travailler pour pouvoir, comment dirais-je, payer même tes coûts pour avoir tes examens. Et tu es obligé de faire deux choses à la fois. C'est une bénédiction. Il y a quelquefois la souffrance de la vie qui vous amène à faire des activités. Sachez que c'est Dieu qui vous y amène. Il faut développer la chose. Mais si vous partez avec un esprit d'amertume, le travail ne va jamais vous révéler son secret. Parce que vous travaillez pour avoir un salaire des hommes. Mais vous partez, vous travaillez. Seigneur, si je suis là, c'est toi qui l'as voulu. C'était la mentalité de Joseph. Il n'a pas dit, regardez des gens comme ça là. Potiphar, est-ce qu'il connaît mon papa? C'est à cause de mes frères que je me retrouve ici. C'est à cause de mes frères. Pour que Joseph se retrouve chez Potiphar, on l'avait trahi. Pour que tu te retrouves dans cette situation, mon ami, ton père peut-être a été renvoyé injustement. Tu travailles dans une structure, on t'a renvoyé injustement. Tu avais un diplôme, un prof est venu en classe, il ne t'a pas donné ton diplôme parce qu'il était contre toi. Il voulait que tu sortes avec lui avant qu'il te donne ton diplôme. Il ne t'a pas donné et tu te retrouves à ne même pas pouvoir déposer ton curriculum vitae dans une entreprise. Et ça te fait faire un travail qui ne vaut même pas ton diplôme. Sache que c'est Dieu qui a permis. Et te voilà en train, toi qui étais censé être ingénieur, informaticien, en train de faire un travail de standardiste. Oui, allô? Bonjour. Voulez-vous parler à qui? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut le cultiver, ce travail. Ne réponds pas au téléphone avec amertume. Allô? Qui est là? Tu es parlé à qui? Monsieur, s'il vous plaît, je voulais parler à Monsieur Kwadjo du service compta. Je n'entends pas. Parle fort, Yagua. C'est qui? Un gars, il s'appelle Kwadjo. Je ne sais pas. Mais les gens, même, et puis tu racontes. Ils sont bizarres. Mon frère, qui t'a obligé à aller là? Parce que tu es en train de mettre sur les clients de la boîte ton amertume, les grueurs, les problèmes. Quand tu remarques le salaire de ton patron, il est tellement petit. Donc toute ta colère, tu déverses ça sur les clients. Quand tu les accueilles à l'entrée, oui. Tu es une nounou. Mais tu travailles. Tu te dis, moi normalement là, je devais être une patronne de maison. Maintenant me voilà en train d'être nounou, en train de m'occuper des bébés de mes soeurs. La fille là, hein, ta patronne, tu es sa grande soeur, je ne sais pas, de 10 ans. Et te voilà, une petite fille, quoi, tu es en train de l'appeler Tanti. Toi tu as 40 ans, ta patronne, parce que ses parents sont allés à l'école, on l'a mis à l'école. Elle a 25 ans, toi tu as 40 ans. Mais la vie t'amène à être nounou. Et te voilà en train de prendre son bébé. Ta petite soeur. Tanti. Ah. Vous savez, Joseph était esclave. Mes amis, esclave. Et Joseph savait que il a une origine. Ça veut dire, lui, il a une famille. Mais quand même, en tant qu'esclave, il était impeccable. Parce que dans son esprit, il ne travaillait pas pour un homme. Il travaillait pour Dieu. Si vous travaillez avec ce cœur, ce que vous faites est un trésor. Vous êtes arrivé là-bas involontairement. Ce sont la maltraitance, la méchanceté des hommes. Joseph, c'est la méchanceté de ses frères qui l'ont conduit là-bas. Il avait tout pour être aigri. Mais il a travaillé avec un cœur pur. Faites ce que vous faites avec un cœur pur, sachant que votre récompense vient du ciel. Alléluia! C'est quand vous travaillez comme ça que Dieu vous paye. Dieu vous paye. Si vous travaillez avec un cœur d'amertume, regardant la méchanceté des hommes, vous n'aurez pas de rémunération céleste. Tu as dit, Seigneur, je ne comprends pas. Depuis là, je travaille. Tu as dit, tu vas bénir l'œuvre de mes mains. Mon salaire ne suffit même pas pour finir le mois. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Depuis qu'avec 50 000 francs, on peut vivre jusqu'à la fin du mois. Si tu ne passes pas au salaire divin, comment tu vas t'en sortir? Mais au lieu de bien passer au travail de Dieu, tu ne peux pas travailler selon Dieu. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu es obligé d'avoir 15 000 francs à la fin du mois. Mais prends-le avec joie. Fais-le en disant, Seigneur, je bénis ton nom. Va à ce travail sans regarder la suite. Et le Dieu dont je te parle, tu verras s'il n'existe pas. Alléluia. Tu verras les portes qu'il t'ouvrira. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Parce que Dieu est le rémunérateur, est le payeur de ceux qui travaillent pour lui. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va acclamer le roi de gloire. Amen, amen. Que Dieu nous aide à être bénis sur le plan du travail. Que Dieu nous aide à travailler selon lui. Amen. Dieu vous conduit vers votre destin. Alléluia. On va s'arrêter là pour ce soir. On va se tenir debout. Et on va prier l'Éternel. Seigneur, apprends-moi à travailler. Pardonne-moi chaque fois que je travaille avec l'esprit de la malédiction, l'esprit du monde. Pardonne-moi quand j'ai mis mon esclavage, ma souffrance et mes douleurs sur le dos des autres. Au lieu de travailler avec un cœur joyeux, au lieu de considérer que ce n'a pas que toi qui m'avais amené dans ce travail, même si le salaire humain était insignifiant, Père, c'est toi qui me l'avais donné. Pardonne-moi de ne pas avoir travaillé avec joie. Pardonne-moi de ne pas avoir travaillé comme si je travaillais pour toi. Pardonne-moi d'avoir travaillé comme si je travaillais pour un homme. Pardonne-moi d'avoir travaillé avec une amertume dans le cœur contre mes parents, contre ma famille, contre mes profs, contre les personnes qui avaient contribué directement ou indirectement à mon niveau, à ma situation actuelle. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi de travailler avec un cœur pur. Donne-moi de cultiver tout ce que tu me donnes. Donne-moi de développer tout ce que tu me donnes. Donne-moi de développer tout ce que tu mets dans mes mains. Seigneur, c'est toi qui es ma rémunération. C'est toi qui me payes. Les hommes ne peuvent pas me donner. Et je veux me mettre, Seigneur Dieu, à ton service et non au service des humains. Oh Dieu, car eux, ils ne savent pas rémunérer. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ma rémunération vient de toi. Parlons à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Toujours dans cet esprit-là, je vais cette parole complémentaire, je vais m'adresser à quelques personnes par l'esprit. Amen. Développer le travail, c'est-à-dire la deuxième clé, le deuxième principe de cultiver. Je dis c'est développer. Vous vous développez souvent par certaines pressions professionnelles qui sont sur vous. Vous menez quelquefois des activités où on vous donne excessivement de choses à faire. Excessivement. Vous devez donc apprendre à gérer votre vie de prière, venir à l'église et répondre aux attentes professionnelles, plus répondre à vos devoirs conjugaux. Quelquefois, c'est impossible. Si vous travaillez avec l'Esprit de Dieu, sachez-le, c'est possible de gérer tout cela. Lorsque je travaillais dans un cabinet d'expertise immobilière, j'étais confronté à la même chose. Et je dis, Seigneur, ce travail-là m'empêche de te servir. Et Dieu me dit, je vais te développer, je vais t'augmenter. Je dis, Seigneur, comment? Il dit, apprends maintenant. Il me dit, tu vois, en ce moment, à cause de ce que ton patron demande de toi, des dossiers que tu dois fournir, tu n'arrives même pas à prier, vraiment. Je pouvais être au boulot jusqu'à 23 heures. Il fallait finir des dossiers. Et moi qui avais l'habitude de me lever à 4 heures du matin, je ne pouvais pratiquement plus. Parce que je rentrais très tard. Je dis, Seigneur, je n'arrive pas. Ce travail-là devient pour moi un problème. Sûrement que ce n'est pas ton plan. Je vais le quitter. Dieu me dit, non, j'ai voulu que tu sois là. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, parce que je veux te développer. Il dit, je vais t'apprendre à prier de manière efficace tout en étant chargé professionnellement. Je dis, comment on fait ça? Et Dieu va me mettre dans une nouvelle école. Il va me faire grandir. Il va me développer. Parce qu'on m'a mis beaucoup de pression. Je parle à une personne, tu peux être soumis à beaucoup de pression professionnelle qui arrive de toutes parts. Mais tu peux trouver en Dieu cette capacité de tout gérer à la fois. Ce qui va faire de toi quelqu'un d'unique, quelqu'un d'extraordinaire, c'est ta capacité à répondre aux choses auxquelles le commun des mortels ne peut pas répondre. C'est ce qui va te rendre unique. Pour que tu sois une personne unique, il faut que tu sois confronté à des défis qui sont aussi uniques. Si les activités professionnelles auxquelles on te soumet sont celles auxquelles on soumet tous les hommes, tu seras quelqu'un de très normal. Pour que tu passes du domaine de l'ordinaire au domaine de l'extraordinaire, car Dieu veut te conduire dans l'extraordinaire, il faut quelquefois qu'on te donne des challenges dont la réalisation relève de l'extraordinaire. Mais tu vas y arriver parce que Dieu est avec toi. Et non seulement tu le feras, mais tu ne seras pas médiocre. Parce que déjà ton cœur est disposé à bien faire. Comment on peut gérer? Tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de ton bébé, tu dois fournir le dossier de ton patron. Et je t'assure, ma soeur, tu peux être la meilleure mère, tu peux être la meilleure épouse, tu peux être la meilleure collaboratrice de ton patron, tu peux être la meilleure gestionnaire de tes activités. Tu peux le faire parce que Christ en toi, tout est possible. Dis-toi seulement que c'est possible. Dieu va t'apprendre une forme d'organisation, une forme de gestion. Et quand tu vas apprendre, ça te rendra unique. C'est le défi qui te rend unique. C'est l'incapacité que les autres auront à résoudre toi tes challenges qui fait que tu es différent. Donc ne murmure pas. Dis: Seigneur, montre-moi la possibilité. Tu ne m'as pas dit de quitter ce boulot. Tu ne m'as pas dit de quitter cet emploi. Tu veux que je sois là. Mais ce qu'on me demande de faire, aucun homme ne peut le faire. Comment puis-je m'occuper bien de mon foyer? Comment puis-je en même temps répondre aux sollicitations de cet emploi? Et comment puis-je aussi me reposer? Seigneur, humainement je ne peux pas. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alors le Seigneur t'accordera une force divine. Et c'est cette force divine-là qui développe en toi l'intelligence divine, l'intelligence supérieure, la sagesse supérieure. Et cette sagesse supérieure te rendra unique. De sorte que dans l'avenir, dans quelques temps, tu seras une personne incontournable. Parce que tu as obtenu la capacité de faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Cette pression professionnelle n'est qu'un défi pour toi. C'est un examen de passage. Ne panique pas, ne t'embrouille pas. Ton Dieu à la solution. Et je sais qu'il y a quelqu'un maintenant qui reçoit la sagesse divine pour passer à un niveau supérieur. Parce que la Bible dit, le trésor de l'homme se trouve dans son travail. Ce qui développe un homme pour le faire aller vers son destin se trouve dans ses activités professionnelles. Ce qui a ouvert la porte à Joseph pour le faire aller au sommet, pour que Joseph réalise le plan de Dieu, se trouvait auprès des activités de Potiphar, activités qu'il faisait involontairement, activités qu'il faisait parce qu'on lui avait conduit comme esclave. Mais Joseph a travaillé et c'est ce qui l'a amené à être premier ministre. Jamais on lui avait dit que le travail de Potiphar le conduirait premier ministre. Il y est arrivé par contrainte, il y est arrivé involontairement, mais il y a mis son cœur. Tu ne connais pas ton destin. Ce que tu fais qui semble insignifiant, avec un salaire insignifiant, te conduira au sommet. Fais-le de tout ton cœur, car Dieu est le rémunérateur. Dieu est celui qui te paye. Dieu est celui qui te paye. Que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel bénisse ses enfants, et que Dieu nous donne la sagesse supérieure, la sagesse des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from heaven.